Salut, bienvenue sur Be My Fetish, le podcast qui s'intéresse à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer les pratiques sexuelles alternatives comme les kinks, le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de le réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à des situations de contrainte et d'entravement des mouvements avec des cordes. Pour ce nouvel épisode, je reçois Niouli, qui va nous parler de son intérêt pour le shibari, qu'elle pratique depuis maintenant une dizaine d'années. Dans la première partie de cet épisode, elle nous dira à quoi correspond le shibari et quels en sont les aspects fondamentaux selon elle. Niouli évoquera aussi les différents risques inhérents à cette pratique, tant sur le plan physique que psychologique et émotionnel. Nous évoquerons aussi la question de l'aspect thérapeutique, qui est parfois évoqué dans le cadre de la pratique du shibari. De quoi parle-t-on? Est-ce que la pratique peut être thérapeutique? Niouli nous donnera son avis sur la question. Elle rappellera aussi l'importance de bien se questionner sur ses envies, ses limites, ce qu'on recherche avec cette pratique et le fait d'en faire part à Saon, ses partenaires. Bonne écoute! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle sur les réseaux, je m'appelle Niouli. J'ai 41 ans. Je suis une femme, cisgenre, hétérosexuelle. Et je suis née en Normandie et j'habite en Savoie.
D'accord. Et donc, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Je crois que nous allons parler de shibari.
Ok.
Si je ne m'abuse.
Super.
Qui est une de mes pratiques depuis un petit bail.
D'accord. Mmh. Justement, on va explorer tout ça. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire qu'est-ce que le shibari, à quoi est-ce que ça correspond, à quelle autre pratique peut-être, quelle catégorie est-ce que ça se rattache?
Alors, le shibari, on va dire, est une partie du bondage. Alors, on appelait ça le bondage un peu historiquement parce que c'est le terme américain. Il y a une différence entre le shibari et le bondage américain, essentiellement, on va dire, dans l'esthétique et dans les matériaux des cordes utilisées. Mais le shibari est, à mon sens, je mets beaucoup de guillemets parce que je vais vraiment exprimer ma vision personnelle de tout ça. Le shibari est, à mon sens, une pratique relationnelle qui consiste en la contrainte d'une personne par une autre personne à l'aide de cordes. Voilà. Et donc c'est une contrainte qui peut être prodiguée au sol, qui peut être prodiguée en suspension, qui peut être prodiguée en semi-suspension. Et voilà. Alors je crois que des gens pratiquent le shibari aussi en solo, c'est pas mon cas. Mais en solo, l'idée est de s'auto-contraindre de même au sol, en suspension ou en semi-suspension.
Voilà. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a, selon toi, des principes fondamentaux quand on exerce le shibari, que ce soit sur le plan de la définition peut-être, mais après sur un aspect beaucoup plus pratique?
Alors, on va dire que pour moi, si on veut chercher ce qui fait shibari, donc en termes de définition du shibari, à titre très personnel, pour moi, il y a shibari quand il y a contrainte, c'est-à-dire qu'on empêche quelqu'un de bouger à l'aide de ses cordes. Il y a des gens qui vous diraient que quand on fait ses lacets, c'est déjà du shibari. En fait, à partir du moment où on attache quelque chose, c'est du shibari. Et il y a même un attacheur anglais qui avait comme sous-titre à sa pratique attacher des gens et pas des paquets. Voilà. Okay. En gros, quand on fait un colis, ça peut être aussi du shibari. Mais moi, voilà, si on part du principe que voilà, pour moi, ce qui fait shibari, c'est le fait que quelqu'un soit contraint à l'aide de cordes. Dans une relation de confiance avec la personne qui manipule les cordes, donc soi-même ou un ou une partenaire. Et voilà, ça pour moi c'est le fondamental de ce qui fait shibari. Après, encore une fois, très personnellement, le fondamental de la pratique, à mon sens, c'est une grande confiance en son ou sa partenaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le connaître par cœur, ça veut dire qu'il faut avoir confiance en lui. Je fais vraiment la distinction. C'est-à-dire qu'on peut décider d'accorder sa confiance à quelqu'un qui nous est passablement inconnu. Mais c'est important d'avoir confiance, c'est important d'avoir pu se questionner sur la confiance qu'on accorde à cette personne. Et c'est très important aussi, c'est fondamental de connaître son corps et les réactions de son corps et de ce qu'on accepte de subir ou de faire subir à son corps et de vivre ou de faire vivre à son corps. Et de fait, quand on connaît son corps, on est capable de, on va dire, de différencier un danger d'un inconfort, et ça me paraît aussi être un fondamental quand on pratique. Alors là, je viens de parler, je pense, en tant que personne qui se fait attacher. Mais je dirais que le fondamental des gens aussi qui attachent, c'est d'être capable d'écouter une personne, c'est-à-dire d'écouter sa voix, sa parole, ses émotions et son corps. Voilà. Et il me semble que un autre fondamental, c'est de savoir gérer sa frustration et de savoir dire peut-être il vaut mieux pas pratiquer aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
On va certainement, c'est des sujets qu'on voudra aborder plus tard, mais c'est une pratique assez bouleversante physiquement et psychologiquement. Et je crois vraiment très important d'être capable de se dire j'ai très envie de pratiquer là, mais je suis peut-être trop fatiguée pour bien le vivre. C'est-à-dire que l'envie ne fait pas le bien fondé ou le fait que la séance se passe bien ensuite. Et c'est important de pouvoir se dire « je suis peut-être trop fatiguée, je suis peut-être trop triste, je suis peut-être trop en manque.
»
Et en tout cas, ou peut-être que tu es trop fatiguée et j'ai pas envie de t'imposer ça, parce que parfois on a un partenaire qui a très envie de faire plaisir et qui du coup va peut-être se forcer et c'est peut-être pas bon. En tout cas, voilà, encore une fois, à titre très personnel, pour moi c'est fondamental de pouvoir se dire j'aime le shibari et je l'aime assez pour ne pas le pratiquer parfois. Voilà.
Parce que du coup, en plus, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que effectivement, si on le pratique au mauvais moment, que ça soit donc pour soi ou pour les autres, ça peut créer un risque en fait.
Ça crée un risque effectivement de pas bien écouter son corps, encore une fois, donc du coup de pas forcément déceler des signes d'alerte sur des problèmes physiques qui pourraient se produire. Parce qu'on est peut-être trop occupé à vouloir faire plaisir à la personne avec qui on est en train de pratiquer, ou parce qu'on est trop occupé à se dire « bon, ok, je ne suis pas dans le bon état d'esprit aujourd'hui, donc évidemment, je vais tout mal vivre, donc il faut que je prenne tout. » On ne va plus forcément être dans la bonne disposition pour faire la distinction en fait, entre les choses bonnes et inconfortables et les choses mauvaises et dangereuses qui vont nous arriver. Et en ça, oui, pour moi, c'est en fait ce qui est le vrai fondamental de cette pratique, c'est de savoir évaluer les risques qu'on prend et de savoir évaluer si on veut les prendre ou non, si c'est le moment pour les prendre ou non. Voilà, c'est peut-être ça, en fait, par ça que j'aurais dû commencer sur le fondamental, c'est avoir conscience que c'est risqué, avoir conscience des risques et savoir se poser la question à soi-même et à son ou sa partenaire de est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, là, maintenant, à prendre ces risques-là ensemble. Voilà.
Mais du coup, c'est aussi très bien de finir sur ce point, parce que ça me permet de te demander quels sont les risques, justement, et sur différents plans, j'imagine, que ce soit donc psychologique, peut-être émotionnel et physique, en pratiquant le shibari.
Alors, c'est vrai que la prévention autour des risques dans le shibari, dans les structures de cours, les initiations, les workshops, etc., elle est essentiellement tournée sur les risques physiques qui sont importants et qui existent, alors qui sont des accidents. Hein. Quand ils se produisent, ce sont des accidents. Encore une fois, on parle toujours d'accidents parce que ça ne se produit pas immanquablement, ce sont des risques. Donc il y a des risques de compression nerveuse à différents endroits du corps, essentiellement sur les bras. Donc c'est le nerf radial qui est beaucoup, qui est souvent sollicité et parfois compressé et qui crée, on va dire, une immobilité des mains. On ne peut plus se servir de ses mains. C'est un problème. C'est un vrai problème.
Qui peut être passagère, voire
plus
ou moins longue.
Les conséquences, de cette compression abîment plus ou moins le nerf et selon l'importance, le degré de lésion sur le nerf. C'est quelque chose... le problème peut effectivement durer quelques secondes ou plusieurs semaines. Voilà. Je crois que le temps le plus long, moi, dont j'ai entendu parler, c'est 10 semaines. 10 semaines d'incapacité des deux mains, c'est très problématique.
Ouais, c'est énorme.
Voilà. Bon, je ne sais pas comment s'est déroulée cette séance, mais j'imagine que, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mmh. Mais c'est un vrai risque. C'est un risque qui existe. Et voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas la majorité des cas. Hein. Je ne connais pas des centaines de personnes à qui ça s'est produit. Mmh. Mais c'est quelque chose qui existe. Donc voilà, il y a le risque de compression nerveuse au niveau des bras. Donc j'ai parlé du nerf radial, mais je pense qu'il y a un deuxième nerf. Mais voilà, j'ai pas bien révisé mon anatomie. Il y a des nerfs au niveau des hanches aussi qui peuvent là pour le coup plutôt provoquer des insensibilités sur le corps. Moi typiquement c'est quelque chose qui s'est produit dans les premières années de ma pratique, une insensibilité sur la cuisse qui a duré plusieurs semaines, qui n'était pas très grave, qui m'empêchait pas de faire quoi que ce soit. C'est juste que si je m'étais brûlé à ce moment-là sur cette partie de la cuisse, bah, j'aurais pas senti. Ouais. Voilà, c'est l'insensibilité. Donc ça c'est un des risques, c'est des compressions nerveuses. Ensuite, il y a des risques de compression sanguine, évidemment, parce qu'encore une fois, on se fait attacher, donc ça veut dire qu'on se fait serrer, contraindre avec des cordes. Donc il y a des risques de compression sanguine. Donc ça, c'est pareil, on essaie d'apprendre à être vigilant aux signes d'alerte physique qu'on vit par rapport à ça. Et aussi, quand on attache, on essaie d'être vigilant à comment se comporte le corps de l'autre. Quand on voit un changement de couleur d'un membre, on lui demande simplement s'il le sent, s'il peut le bouger. Il y a des choses qui peuvent être très impressionnantes visuellement et pas graves pour la personne qui est en train de se faire attacher. Mais voilà, il faut que l'attacheur puisse être en capacité d'être en vigilance par rapport à tout ça et de s'assurer lui aussi que la personne est attentive à ça. Et puis, je dirais que le dernier risque physique, alors peut-être que j'en rate, mais des gens ne manqueront pas de me corriger, je pense, si jamais c'est le cas. Mais un des derniers risques, c'est en suspension, c'est le risque de chute. Et le risque de chute, il peut être provoqué soit par, on va dire, une ligne de suspension qui va être mal fixée, ou le point de suspension, c'est-à-dire la structure à laquelle on est suspendu, soit ça va être un point de suspension avec, je sais pas, un anneau, des mousquetons, ou alors un bambou, ce qui se fait beaucoup. Voilà, si le truc a été mal fixé, si la structure n'est pas très solide, ce sont des choses qui se sont produites. Ou alors si un mouvement de l'attacheur fait qu'il a posé une ligne de suspension principale un endroit où il ne fallait pas la poser parce qu'en fait ça fait basculer le bambou, voilà, ça, y a des risques de chute, de semi-chute. Ouais. Voilà.
Il faut aussi du coup penser à la physique, aux règles de physique par rapport au poids par exemple que peut supporter un mousqueton, un anneau en fonction du poids de son ou sa partenaire. C'est qui ne sera pas forcément le même poids que la prochaine ou le prochain. Le partenaire suivant. Donc ouais, c'est des choses auxquelles effectivement il faut penser.
Sachant que par ailleurs, quand on travaille de la suspension en Shibari, on ne travaille pas en statique en fait. Il y a une énergie cinétique qui fait que quand on a une sangle qui nous dit ça passe pour 150 kg, on a beau attacher un poids plume à ce point. Ça ne veut pas dire en fait qu'on ne va pas développer une énergie qui va être supérieure à 150 kg à un moment. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pêcher par excès de prudence en fait par rapport à ce risque-là. Et puis des fois aussi on fixe des points dans des plafonds et puis on ne le savait pas, mais en fait ce plafond n'est pas du tout celui dans lequel on pouvait mettre des chevilles mollies ou je ne sais pas quoi. Enfin, donc voilà, il y a la question des scellements chimiques. Il y a plein de méthodes, mais c'est. Mais voilà, en tout cas ça fait partie des risques. À mon sens, rien ne vaut une bonne poutre de charpente dans laquelle on met des bons vieux crochets. Et puis, voilà, si ça tient toute la maison, ça devrait pouvoir tenir un corps en suspension, quel que soit ce corps, quel que soit son poids, son comportement, etc. Mais voilà, ça fait partie des risques. Donc ça, c'est les risques physiques. Et après, il y a effectivement des risques psychologiques qui vont être un peu liés. Typiquement, quand on se fait attacher, il y a ce qu'on appelle ce phénomène de lâcher prise. Le lâcher prise, ça fait que parfois, on va être un peu moins attentif à ce qui va se passer dans notre corps. Et ça, je ne saurais pas dire si c'est un risque physique ou psychologique, mais en tout cas, c'est très lié, c'est hyper lié à la pratique. Ce truc de « je suis un peu parti, je suis en lâcher prise », il y a ce truc qui s'appelle le « subspace » un peu. Ça reste un état modifié de conscience à partir du moment où on se fait attacher et qu'on se concentre un peu sur l'instant, sur ce qui se passe, les sensations, la relation avec la personne qui nous attache. Et on peut être un tout petit peu moins attentif à « tiens, est-ce que j'ai toujours la mobilité de mes mains ? Est-ce que je peux les bouger comme je veux ? Est-ce que... »
Ça va altérer notre concentration, altérer notre réceptivité aux sensations, etc.
Voilà, notre écoute de nous-mêmes. Donc voilà, on va dire que ce que je viens d'expliquer, c'est plutôt, on va dire, un aspect psychologique qui peut faire prendre des risques physiques. Et puis après, Encore une fois, je mets beaucoup de prudence à ça, mais à titre très personnel, je considère qu'il y a beaucoup de risques psychologiques, beaucoup plus qu'on ne le dit. Ce sont des risques que moi, je qualifie comme tels de manière très intuitive. J'ai pas de preuve de ça, mais c'est très intuitif, c'est très empirique. Il y a des risques qui sont très liés, par exemple, au caractère très addictif de cette pratique. C'est-à-dire que se faire attacher, c'est forcément encaisser certaines formes de douleurs, de contraintes. Donc c'est libérer des endorphines et tout un tas de substances chimiques dans notre cerveau. Et que ces substances chimiques, en fait, elles nous mettent dans un état qui est assez proche de celui de certaines drogues. Mmh. Et à partir du moment où il y a drogue, il y a risque d'addiction. Et quand il y a risque d'addiction, il y a risque de comportement irrationnel pour pouvoir retrouver sa dose. Et alors ça, pour le coup, ce sont des choses que j'ai vues, mais à un moment, l'addiction à cette pratique peut faire que... On va du coup être un peu moins vigilant à la confiance qu'on va accorder à notre partenaire. Donc on va se mettre peut-être dans une situation qui va être plus propice à une situation d'abus ou d'agression. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on la provoque. C'est juste qu'on va plus se mettre en danger par rapport à ça. On va faire tomber quelques défenses parce qu'on a tellement envie de se faire attacher. Parce que, oh mon Dieu, ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de corde. Ma partenaire habituelle n'est pas dispo. Il y a cette personne qui me propose depuis longtemps. C'est vrai que d'habitude, je le sens pas. Mais finalement, c'est peut-être l'occasion. Allons-y. Et voilà. Et ça peut faire que on peut se mettre dans une situation où on va être soi-même inconfortable et se retrouver dans une situation qu'on n'a pas forcément envie de vivre, sans qu'il y ait forcément de malveillance de la part du ou de la partenaire. Mais voilà, encore une fois, c'est une pratique qui nous emmène sur un terrain quand même sensuel.
Ça vient vraiment, en fait, nous désinhiber de certaines choses. Ça vient effacer, en fait, certaines barrières, certaines limites parfois qu'on se pose, ou certains critères qu'on peut avoir. Oui. Parce que il y a ce manque qui va prendre le dessus. Et ça, comme tu le dis, c'est chimique, en fait. On contrôle pas forcément tout. Et c'est pour ça, peut-être, que c'est important de prendre du recul sur pourquoi, à l'instant T, j'ai envie de pratiquer. Et comme tu le disais tout à l'heure, j'ai envie de pratiquer, mais peut-être que c'est pas le bon moment pour moi ou pour l'autre personne.
Voilà, quand j'ai qu'un des fondamentaux pour moi, quand on veut pratiquer le Shibari, c'est d'être capable de ne pas le pratiquer, même si on en a très envie, pour ne pas se mettre en danger, parce que c'est effectivement... Tu fais le bon lien. Donc voilà, ça pour moi, c'est un des risques psychologiques, c'est effectivement le terrain addictif de cette pratique, donc qui fait qu'on peut s'exposer à des dangers. Pour moi, une autre chose, c'est que, en fait, la dimension symbolique du shibari, le fait de se faire attacher, enfin voilà, on crée du lien. Alors, c'est parfois un bon mot dans les associations. Je suis très attachée à toi. Il n'empêche que cette dimension concrète et symbolique, elle existe et elle coexiste, en fait.
D'accord. Donc ça serait un attachement non pas seulement physique, mais vraiment un attachement émotionnel avec le partenaire.
Effectivement, avec la personne avec qui on pratique, parce que dans les fondamentaux que je donnais tout à l'heure, il y a cette histoire de confiance. Enfin, je pense que les gens commencent à reconstituer un peu le puzzle de ce que peut-être je dis de manière un peu dispatchée. Mais ce côté faire une confiance absolue à quelqu'un, alors ça, c'est valable encore une fois quand on est attaché ou quand on attache. Parce que quand on attache quelqu'un, il faut qu'on ait absolument confiance en la personne qu'on attache pour pouvoir communiquer, pour toutes ces choses-là, en fait. Donc il y a vraiment un échange très très fort de confiance. Et il y a des gens pour qui accorder sa confiance à ce point, c'est quand même, on confie à une personne son intégrité physique et son intégrité émotionnelle. Ça peut faire qu'on a des attachements très asymétriques qui vont se produire. C'est-à-dire qu'on peut considérer, nous, que la personne qui nous attache, par exemple, c'est un exemple de situation, mais je me fais attacher régulièrement par telle personne, j'aime beaucoup les émotions que ça me procure, j'aime beaucoup les sensations physiques que ça me procure, j'aime beaucoup le fait de pratiquer avec cette personne, j'aime beaucoup la proximité que ça me donne avec cette personne. Oh mon Dieu, je suis en train peut-être de tomber amoureuse, alors que cette personne nous voit, elle, plutôt comme un partenaire du pratique. Et du coup, on ne va pas avoir le même type d'attachement. ben, encore une fois, c'est pas très grave. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec l'attachement asymétrique à quelqu'un. Mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué à vivre. Mmh. Et ça peut les mettre en danger émotionnellement. Et c'est pareil, ça, c'est des choses que j'ai constatées. Je l'ai vu, en fait. Des binômes de gens qui pratiquaient beaucoup ensemble. Puis tout à coup, il y a une personne qui investit cette relation d'une manière complètement différente de son ou sa partenaire. Et ça crée un déséquilibre qui va devenir très souffrant, en fait, pour une des deux personnes, et qui va créer de l'incompréhension chez l'autre, qui se dit « mais moi, je t'ai jamais emmené sur ce terrain, etc. Mmh. » Et voilà, donc ça, voilà, encore une fois, c'est un risque qui existe, c'est un risque qui est surmontable, mais il faut avoir conscience que ça existe. Mmh. Et c'est quelque chose d'assez important. Et voilà, on met en jeu, encore une fois, la confiance qu'on a dans les personnes, la confiance qu'on a en nous. Et c'est une pratique qui est quand même très bouleversante, qui nous fait, qui nous sollicite très fort, hein, encore une fois, émotionnellement, physiquement. Moi, je pense vraiment que c'est fondamental de ne pas minimiser les impacts que ça peut avoir à court terme, à moyen terme, à long terme. Aussi parce que j'ai vu des personnes décompenser très fort, et je suis à peu près persuadée que leur entrée, c'est des gens qui pouvaient avoir un terrain un peu fragile, qui était, enfin voilà, qui pouvaient avoir certains troubles, etc., qui sont entrés dans la pratique du shibari, parce que c'est souvent présenté comme ça aussi, comme une pratique presque thérapeutique, en fait.
On en parlera aussi sûrement.
Voilà, comme quelque chose qui nous permet le lâcher prise, etc. Donc c'est vrai, hein, c'est très très vrai. Mais des fois, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à ça, en fait? Et est-ce qu'on est prêt à lâcher prise dans ces conditions-là? Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise dans une pratique qui va être très tactile? Et ça, c'est, pour moi, c'est un autre des risques psychologiques auxquels moi, j'essaie d'être très attentive quand je parle aux personnes de tout ça. C'est que ce que j'ai constaté, c'est que ces dernières années, il y a pas mal de gens qui se lancent dans la pratique, dans l'initiation, et qui viennent en se disant... alors, c'est des gens qui vont être un peu délurés, un peu ouverts sexuellement, qui vont aimer la tactilité, qui vont... Enfin, en tout cas, voilà, on va dire une vraie décomplexion par rapport au contact, ou qui ont envie d'aller vers une décomplexion, et qui vont se lancer dans le shibari en se disant « c'est super ». Et moi, j'ai toujours envie de dire... mais en fait, le shibari ne va répondre à aucune question. Le shibari va en poser beaucoup, en fait. Et oui, son rapport à la tactilité avec un inconnu, quel type de contact on veut, on est prêt. Quelqu'un va me dire « Non, mais moi, j'adore faire des câlins avec les gens, les réconforter. » Ok, mais ça n'emmène pas sur le même terrain émotionnel que de se faire attacher par quelqu'un qui va, pour les besoins de la corde, parfois effleurer certaines zones du corps que toi, tu vas peut-être investir d'une manière plus ou moins érotique, par exemple, et peut-être qu'en fait, c'était pas ok.
Et surtout que la situation est complètement différente. Là, on est dans une situation où on ne peut pas bouger, on ne peut pas disposer librement de son corps.
Exactement, en fait. C'est à ça qu'on s'expose, et de s'assurer, en fait, qu'on est OK avec le fait qu'il va y avoir, il peut y avoir des gestes malencontreux. Alors, pour le coup, je ne parle pas d'une dimension d'agression, hein, du tout, mais je parle du fait qu'on peut se sentir agressé des fois par des gestes qui n'ont pas été ni malveillants ni quoi que ce soit, mais que bah, des fois, j'en sais rien, pour pouvoir faire un pattern, on va avoir besoin d'écarter la jambe pour pouvoir terminer son futomomo. Dans la manière d'écarter la jambe, des fois, il y a des gens qui ne vont pas aimer en disant « cette manière m'a mise mal à l'aise, mais je ne pouvais pas dire grand-chose parce que bah, j'étais en train de me faire attacher et puis que j'étais un peu dans le subspace et tout, mais qui après coup vont dire j'ai pas du tout aimé la manière dont on m'a manipulé la jambe, et de réaliser qu'on va vivre un moment où on va pas forcément être en capacité d'avoir tous ces moyens de communication habituels. Et du coup, moi, ça me paraît hyper important d'évaluer la confiance qu'on fait, où on est capable d'aller, de pouvoir poser des warnings et d'évaluer sa capacité à encaisser le fait que ça puisse ne pas s'être passé de la manière dont on le souhaitait. Alors, encore une fois, j'écarte toute situation d'agression.
Bien sûr.
Mais voilà, il y a parfois des moments où on va pouvoir vivre quelque chose de très malaisant. Et c'est, est-ce que dans ma vie, je peux encaisser les trucs un peu malaisants, je peux dealer avec ou pas du tout? Est-ce que j'en suis à cette maturité émotionnelle-là? Et c'est pas grave de pas l'être et de se dire, peut-être il faut que j'attende un peu, en fait. Et le risque, alors un des autres risques aussi, c'est de se retrouver face à un partenaire qui va pas avoir la même conception que nous. C'est vraiment juste, en fait, de... Je pense qu'un des risques qu'on peut prendre, c'est de pas... comment dire? De pas évaluer la multiplicité des choses qui peuvent se produire à nous pendant une séance. et de pas s'être posé les questions de est-ce que je suis à l'aise dans beaucoup de situations, et du coup de ne pas poser les warnings à son ou sa partenaire en disant moi je suis pas à l'aise quand il se passe ça, ça et ça.
La question justement qui je trouve en fait ressort dans ce que tu dis, c'est l'importance de la communication. Parce que tu as parlé du fait que l'attachement émotionnel était surmontable, de la manière dont je le perçois, ça pourrait être surmontable entre guillemets par le fait de communiquer et d'exprimer ce qu'une personne ressent pendant une séance. Tu m'as fait tel pattern, tu m'as mis dans telle position, il s'est passé telle chose, moi j'ai ressenti ça, on a fait telle et telle séance, etc. Et maintenant je ressens ça, qu'est-ce que toi tu ressens, etc. Donc là, l'importance de la communication, ou même avec ce que tu viens de dire, effectivement, par rapport aux gestes, par exemple, qu'une personne pourrait, en fait, pour elle-même, pour son intégrité physique, trouver déplacé. Pareil, c'est là où la communication, en fait, est vraiment essentielle.
Elle est essentielle, et pour le coup, elle est essentielle. Alors, je me rappelle mes vieux cours d'expression où on nous rappelait bien que dans la communication, il y avait un émetteur, un récepteur et un message. Donc, la capacité à émettre le message, elle est très importante, mais la capacité à recevoir le message, elle est très importante aussi. C'est-à-dire que si on vit quelque chose de malaisant, et que sur le moment, on n'en a pas parlé, parce qu'encore une fois, pendant qu'on se fait attacher, on n'a pas toujours à disposition tous nos moyens de communication. Mais en tout cas, si dans le moment qu'on va prendre après, si on a besoin de débriefer, on dit « bon, à ce moment-là, j'ai pas du tout aimé, effectivement, j'en sais rien, ta dynamique, le geste, l'endroit où tu as posé ta main », une des choses qui va être très très importante, c'est la manière dont est reçu ce message par la personne. C'est-à-dire que le coup de « oh non, mais attends, tu sais bien, j'ai pas fait ça méchamment, j'ai pas fait », ça, c'est pas OK. Enfin, il y a un truc, un simple « OK, excuse-moi, effectivement, j'avais pas de malveillance, je n'avais pas mesuré que tu puisses pas bien le vivre, je m'efforcerai à l'avenir de pas le faire, et si jamais je reproduisais ce geste, parce que personne n'est parfait et qu'il arrive qu'on reproduise des erreurs, bien même sûr. Si on nous a fait cette remarque, si je reproduisais ce geste, j'espère que tu pourras me le dire sur le moment, et si c'est pas possible, n'hésite pas à me le rappeler, et puis si à un moment... Enfin, en tout cas, juste la manière dont le message est reçu est vraiment extrêmement importante pour le fait que la communication puisse être très saine, en fait.
Complètement. Et donc là, un point que tu soulèves, effectivement, ça va être le retour d'expérience, de ressenti après une séance, par exemple. Et ça a été évoqué d'une certaine manière dans ce que tu disais avant. C'était poser les limites, dire « j'ai pas envie qu'on me touche ici » ou « quand on me touche de cette manière, moi, ça me correspond pas ». Donc c'est aussi... avant une rencontre, au moment de la rencontre, et du coup avant la séance, poser ses limites, bien définir ses envies à soi, et connaître les envies de l'autre, en fait, savoir si on est en adéquation.
Mais pour ça, il faut être très au clair avec soi-même et quelles sont ses limites. Ça, c'est pas quelque chose d'inné, en fait. C'est-à-dire que j'ai un ami qui prend souvent cet exemple, donc lui, il attache parfois des personnes qu'il ne connaît pas, et il les invite, et elles arrivent, et en général, il demande aux personnes, voilà, est-ce que tu as des limites? Et donc, il y a plein de personnes qui débarquent et qui sont, pour le coup, encore une fois, très délurées, très libres, etc. Et qui disent, non, mais moi, j'ai pas de limites. Peut-être juste, voilà, alors qu'ils vont dire, non, j'ai les tétons un peu sensibles, donc si les cordes peuvent ne pas passer là, ta-ta-ta-ta. Mais sinon, à part ça. Et en général, il dit, d'accord, ok, donc si je te fiste dans les cordes, c'est ok pour toi. Et là, en général, les personnes font, non.
Elles n'étaient pas prêtes.
non, mais voilà, c'est parce qu'à un moment, c'est ça, exposer ses limites. Il y a tellement de possibles que... c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en la personne. Et lui, il teste un peu cet ami. Il teste aussi un peu ce truc-là. Il joue un peu la provocation. Mais de dire, est-ce que tu es bien sûr d'avoir confiance en moi? Parce que, tu vois, je viens de te dire que je pouvais te faire un truc dont tu ne m'as pas parlé. Tu ne m'as pas dit que c'était interdit. Et ça va être complètement possible que je te fasse ça pendant les cordes. Comment tu vas dealer avec ça après?
Ouais, pour faire une prise de conscience, voilà. En fait, et pour que la personne puisse mieux définir
voilà,
ses envies.
C'est un vrai électrochoc de dire, prends encore un peu de temps, en fait. Je suis sûre que tu as des limites. Je suis sûre que tu en as. Et peut-être, en fait, plutôt que des limites, tu vas me dire dans quel état d'esprit tu as envie de pratiquer, alors. Peut-être que c'est comme ça que tu vas vouloir exprimer. Mais voilà, la communication, tu vois, l'émetteur, le récepteur, les limites, c'est un concept que je manie avec prudence, parce qu'encore une fois, on pense pas forcément à tout ce que l'autre va avoir en tête, en fait, et du coup c'est délicat, mais à un moment de dire voilà, est-ce que tu as confiance dans le mode de communication, dans le fait que je sois bienveillant, et que encore une fois, si quelque chose finalement t'est déplacé, enfin, est déplacé selon ton point de vue. Voilà, est-ce que tu vas pouvoir dealer avec et ne pas le vivre comme quelque chose de traumatique, en fait, parce que c'est quand même ce qu'on a envie qu'il ne se produise pas, en fait, de traumatiser les gens, de traumatiser. Mais voilà, et en ça, je considère que c'est un risque dans le sens où la manière dont on emmène les gens sur la pratique aujourd'hui, elle ne laisse pas beaucoup d'espace à ces questionnements-là. Et
à
au
cette
fait
réflexion.
Que, voilà, à cette réflexion, à ce questionnement. Et au fait que ben non, en fait, c'est, tout ça n'est pas qu'un truc que si on le pratique avec des personnes qui sont dites safe, dans des endroits dits safe, alors ce sera safe. Non, il y a beaucoup de risques et il faut se demander si on est en capacité de les prendre, si on accepte de les prendre et si on va pouvoir dealer avec. Et voilà.
Merci beaucoup. Et donc, pour parler un peu de toi, à quel âge est-ce que tu as découvert que tu aimais le shibari et comment?
Eh bien, j'ai découvert que j'aimais le shibari la première fois que je l'ai pratiqué. À quel âge avais-je? J'avais 31 ans.
D'accord, c'était, donc il y a 10 ans, en fait, c'est ça?
C'était il y a 10 ans, effectivement. Et en fait, tout simplement, j'avais c'est une période comme ça où j'étais sexuellement très libre. Et je faisais plein de rencontres. Et il y en a un qui savait que je posais, enfin c'est une de mes activités, je posais en école d'art, en pose longue, et lui avait un ami qui pratiquait le shibari, et il m'a envoyé quelques photos en me disant « j'ai bien envie d'essayer ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je me suis dit « ok, d'accord, pourquoi pas, essayons ». Et du coup, il avait des cordes en nylon, donc pour le coup, il m'avait parlé de shibari, mais il avait plutôt la matière du bandage américain, parce que c'était des cordes en nylon de couleur, des cordes de couleur. Et on va dire qu'il a posé des cordes sur moi, il a vraiment fait quelque chose de décoratif. Et effectivement, esthétiquement, j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis les photos qu'il me montrait, etc., je trouvais ça plutôt rigolo. Et puis, je revoyais de temps en temps cette personne. Et puis je lui disais, mais du coup, est-ce que t'as pas envie de continuer à pratiquer? Et puis lui, il a fini par me dire, non, c'est compliqué ce truc.
Okay.
Faut apprendre plein de trucs, j'ai pas envie. Et moi, du coup, je me suis retrouvée un peu à me dire, ah bah c'est dommage, parce que moi, j'ai bien aimé quand même.
D'accord, donc c'est ça que j'allais te demander.
Voilà.
Il y avait l'aspect esthétique.
Voilà.
Après coup, du coup, en tout cas, pour toi, parce que l'artiste, donc la personne soit qui va nouer ton corps, et si la personne prend des photos en même temps, voilà, elle voit direct le résultat.
Voilà.
Mais toi, c'est vrai que tu peux le voir seulement après. Du coup, qu'est-ce qui se passait pendant que tu étais attaché?
Alors pour le coup, j'emploie pas souvent ce terme, mais cette fois-là, j'ai pas été attaché, j'ai été encordé. C'est-à-dire que vraiment, il m'a décoré avec des cordes, mais il m'a absolument pas contrainte. Et ce que j'ai aimé pendant le moment, c'était justement ce truc assez sensuel mais pas sexuel, du passage des cordes, du fait que sur certains passages, il me plaque contre lui pour pouvoir poser la corde à tel endroit, la sensation de la corde qui passe sur la peau aussi. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Mais c'est vrai que je n'avais pas encore connu la contrainte. Et du coup, c'est ça qui me rendait un peu curieuse quand même. Et lui, il n'était pas très à l'aise avec ce terrain-là. Et il n'a pas eu envie. Mais vraiment, sur le moment, il y a eu un truc de sensation physique qui m'a beaucoup plu. Et de ce que ça a emmené dans ma relation avec cette personne, comment ça enrichissait. Moi, j'avais des relations uniquement sexuelles avec lui. Et tout à coup, il y avait un truc qui était plus sensuel et plus complice.
Alors justement, tu as dit quelque chose d'intéressant. C'est que là, par rapport à la manière dont il t'a encordé, tu n'étais pas contrainte.
Non.
Alors justement, quelle différence est-ce que tu fais entre le fait donc d'être encordée et le fait d'être contrainte?
Eh bien, pour moi, être encordée, c'est quand on pose des cordes sur notre corde, et le fait d'être contrainte, c'est quand ces cordes nous empêchent de bouger.
D'accord.
En tout cas, c'est quand nous entravent notre mobilité d'une manière ou d'une autre. Les deux mains attachées ensemble, pour moi, c'est déjà une contrainte, parce que ça empêche beaucoup de choses. Ça empêche beaucoup de choses.
C'est-à-dire que si tu es encordé, tu peux en soi continuer de bouger.
Ah, mais c'est ce qui s'est passé.
C'est
ce
vraiment
jour-là.
Décoratif, comme
il
tu
m'a
dis,
décoré,
comme si tu étais habillé de cordes et que tu peux aller faire ta vie, etc.
C'est complètement
etc.
ça. Ce jour-là, d'accord. Il m'a décoré, mais moi, je pouvais. Et je suis resté d'ailleurs encordé un petit moment et voilà. Et juste, je pouvais passer devant le miroir, je pouvais jouer avec lui, je pouvais. J'étais libre d'absolument tous mes mouvements
d'accord.
sur cette séance-là.
Ok.
Et voilà, c'était plus un truc d'essai. Mais voilà, en tout cas, ça m'a intrigué sur la sensation, ça c'est certain. Et puis sur ce que ça impliquait, et puis le fait qu'il n'ait pas envie d'aller plus avant. Moi, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen. Et dans mes pérégrinations de sites de rencontres, un contact m'avait parlé d'un site un peu fétichiste sur lequel j'avais créé un compte juste pour aller voir une vidéo, mais j'étais jamais retourné. Et donc je me suis dit, tiens, mais sur ce site, est-ce que je, peut-être par hasard, est-ce que je vais pas trouver des gens qui aiment ce truc dont je n'avais jamais entendu parler, qui est le Shibari. Et donc je me suis reconnecté à mon compte FetLife.
D'accord, FetLife, donc application, non, site de rencontre.
C'est un réseau social fétichiste. D'accord. C'est pas un site de rencontre, c'est un réseau social fétichiste et BDSM. Et je me suis dit, tiens, on va voir si là-bas, par hasard, il n'y a pas un truc. Et là, les portes du paradis et de l'enfer se sont ouvertes en même temps. Quand je me suis reconnecté et que j'ai tapé Shibari dans la barre de recherche, où je me suis rendu compte que, ils étaient des centaines, des milliers, et qu'en fait, c'était une pratique très répandue, et que, voilà. Donc là, je me suis mise à... Je me suis beaucoup questionné sur, ok, alors attends, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que les gens pratiquent? J'ai regardé plein de genres de photos, j'ai fait, ah là là, ça me fait pas envie. Ah ça, pourquoi pas un peu plus? Ça, je me demande si je serais capable. Ça, je me demande si je peux prendre. Ça, je me demande si lui, il est sympa. Voilà, je me suis beaucoup projeté dans ce truc en me disant, ok, du coup, qu'est-ce qui me fait envie? Comment j'ai envie de rentrer dans cette pratique-là? J'ai très naturellement, on va dire, fait une espèce de petit chemin intérieur de comment je me protège de ça. Enfin voilà, quel type de personne j'ai envie de rencontrer, j'ai pas envie de rencontrer. Sur un réseau social, je suis jamais sûre. Donc du coup, comment je me sens, moi, en sécurité ou pas. Et puis j'ai commencé à contacter des personnes, et notamment, on va dire que ma première séance contrainte, elle est arrivée quelques mois après ma première séance pas contrainte. Et pour le coup, j'avais choisi quelqu'un qui me paraissait amateur, à la fois en termes de cordes et de photos, parce que j'avais encore une envie d'image par rapport à tout ça. Et j'avais juste pas envie de me mettre la pression à me demander si je serais à la hauteur. Donc j'ai contacté quelqu'un qui me semblait avoir lui aussi besoin de pratiquer et d'approfondir sa découverte. Et puis voilà, je me suis lancé avec cette personne, j'ai fait 250 bornes en voiture pour me retrouver dans un hôtel.
Okay.
Dans un hôtel avec quelqu'un que je connaissais pas, mais en qui j'avais confiance, j'avais développé une confiance aussi dans le dialogue qu'on avait eu. Et c'est cette personne qui m'a initié à la contrainte, et là j'ai découvert du coup tout le reste du Shibari, c'est-à-dire... je sais pas si je développe maintenant tout ça.
Justement, j'allais te demander, qu'est-ce qu'il y a eu après? C'est quoi pour toi le reste? Qu'est-ce que ça t'a fait Qu'est-ce que tu as découvert, en fait?
J'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert que quand j'étais attachée... ce jour-là, ce que j'ai découvert, en fait, ma découverte primordiale de ce jour-là, ça a vraiment été le fait que mes curseurs de confort et d'inconfort étaient très différents selon les situations. C'est-à-dire qu'on m'attachait dans une certaine position, que ma petite marge de manœuvre en termes de mobilité... me permettait de me soulager en me mettant dans d'autres positions, et que quand je me mettais dans ces autres positions pour me soulager, si j'essayais de me regarder de l'extérieur, je me disais, mon Dieu, mais c'est vraiment ridicule. Qui est confort dans cette position? Ça n'existe pas, en fait. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est juste une histoire de curseur, en fait. C'est-à-dire que dans cette situation, là est mon confort, alors que dans la vie, ça, c'est pas du tout le confort. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Et je me suis dit, ok, d'accord, en fait, il n'y a pas de vérité absolue par rapport à tout ça. Il y a juste une sorte de confort, de point de vue et d'acceptation.
Et de ce que soi, on ressent, en fait.
C'est ça. Et voilà. Et du coup, d'entendre que, encore une fois, je peux admettre que la position dans laquelle je me suis mise moi-même avec toute cette contrainte est ridicule. Et en même temps, là, c'est celle qui me convient. S'il vous plaît, laissez-la moi.
En prenant du recul et en mettant de côté, en fait, tout ce que la société, de manière générale, pourrait dire et penser.
Exactement. Donc ça a été vraiment un premier truc de me dire, ok, en fait, il y a plein de curseurs et tout ça est très très subjectif, et ça dépend du moment, de l'endroit, de l'objectif du moment, etc. Voilà, on va dire que ça a été ma découverte. Sur ce moment-là, ça a été ma grande découverte. Et on va dire que j'ai eu une autre séance un peu fondamentale qui m'a fait découvrir que, dans un premier temps, j'étais très attachée. C'était vraiment un moment... En plus, c'est drôle. C'est quelqu'un qui m'a demandé s'il y a des choses que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on me bande les yeux et qu'on me baïonne. Et on sait que quand on émet des négations, les négations sont rarement entendues. Et très rapidement, c'est quelqu'un qui m'a bandé les yeux et qui m'a baïonné.
D'accord.
Et je me suis rendu compte pendant qu'il le faisait qu'en fait, c'était OK. Enfin, que ça ne me posait pas plus de problèmes que ça. Donc, je l'ai laissé faire. Alors, ce jour-là, je n'ai pas dit non. Cette personne m'a demandé ce que je ne voulais pas, et j'ai dit ces choses-là. Et quand... faut savoir, il n'a pas commencé par me bâillonner, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas enlevé la parole. Il a commencé par me poser des cordes sur les yeux. Et là, je me suis dit, j'avais dit que je ne voulais pas ça. Les raisons pour lesquelles j'avais dit ça, c'était pour moi des raisons de... J'ai toujours très peur pour mes yeux. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai des lunettes, donc j'ai toujours un peu un bloc de protection dans mes yeux. Et que du coup, dès que j'ai pu ça, je sens toujours mes yeux très en danger. Et que quand il a posé la première corde, elle n'était pas hyper tendue, elle n'était pas... Et je ne me suis pas sentie en danger. Donc je me suis dit, ok, en fait, c'est fine pour moi. Et voilà. Mais je ne me suis pas dit, il fait exprès parce que je lui dis ça. Je me suis juste dit, ok, il a oublié et il est dans la séance. Mm-hmm. C'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de, est-ce qu'on est capable d'admettre que des choses peuvent ne pas se passer comme on l'avait prévu? C'est-à-dire que j'ai bien vu qu'il ne s'est pas dit direct, ah ouais, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que je bande les yeux, je vais le faire. C'est juste que lui aussi, en fait, il était dans un élan, dans un truc, et que ce truc lui est sorti de la tête, clairement.
Et d'où ce que tu disais tout à l'heure, on n'est jamais complètement safe, et parfois il y a des détails qui nous échappent.
Exactement, mais à ce moment-là, j'aurais très bien pu lui dire, non, ça c'est pas possible. Et je sais qu'il aurait enlevé la corde directement, d'ailleurs quand je lui ai parlé après la séance du fait où je lui ai dit, tu m'as bâillonné pendant les yeux, je l'ai vraiment vu blêmir.
Mon Dieu,
voilà,
qu'est-ce que j'ai
fait. Mon Dieu, j'ai fait ça, et je lui ai dit, mais non, mais j'avais la possibilité de te dire. Et même s'il m'avait bâillonné direct, j'aurais pu faire, il aurait enlevé pour me comprendre, et j'aurais dit, bah, ça j'avais dit non. Mais voilà, donc du coup, à ce moment-là...
En tout cas, sur le moment, c'était OK.
Voilà,
au final.
C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé faire. Donc, il y a eu les yeux, il y a eu, des cordes dans la bouche. Et là, pour le coup, quand il y a eu des cordes sur les yeux, je me suis posé la question en disant, mais du coup, s'il me bâillonne, qu'est-ce que j'en pense? Et je me suis dit, mais en fait, je me sens assez bien avec cette personne, que je connais peu, mais je me sens assez bien avec cette personne. Donc, il m'a bâillonné, il m'a attaché. Et vraiment, pendant que j'étais attachée et que j'étais très contrainte dans cette pièce... dans cette pièce en travaux, on avait... c'est assez drôle, en plus on avait un environnement qui était un peu abîmé comme ça, c'était, enfin, bref, c'était chouette. Donc j'étais très très attachée et c'était très inconfortable. Et j'ai eu une espèce de bouffée de liberté, un truc mais, que j'avais jamais ressenti, en fait, de me dire, oh mon Dieu, là je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler, je ne peux pas voir, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé... Les gens, quand on leur parle de leur liberté, on pense d'abord à sa liberté de se mouvoir, enfin de se déplacer, et à sa liberté d'expression, de parler. Et là, on m'avait enlevé ces deux libertés qui me semblaient être les libertés fondamentales des gens. Et en fait, je découvrais qu'elles n'étaient pas fondamentales du tout, puisque moi, là, je me sentais follement libre, en fait. C'est-à-dire que j'étais en train de vivre un truc que je trouvais incroyable, fort, intense. Et oui, ça me remplissait d'un truc de liberté. Et là, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que... Dans cet état-là de contrainte, je peux percevoir des trucs que j'avais jamais perçus, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais jamais expérimenté ce type de contrainte volontaire, en fait, je me coupais de beaucoup de choses. Et là, tout à coup, je les découvre, elles me sont accessibles. Donc ça a vraiment été un énorme truc, ce côté, oh là là, il y a plein de portes de perception qui sont en train de s'ouvrir. J'ai pas accès à ça habituellement. Et là, je suis en plein dedans, c'est super. Et le deuxième truc que j'ai découvert pendant cette séance, et qui était un des trucs les plus intéressants que j'ai vécu de ma vie, c'est que, encore une fois, j'étais par terre, attachée, je pouvais pas voir, je pouvais pas parler. Et je crois que j'ai jamais eu autant de contrôle sur une personne.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que cette personne, donc, moi, donc, elle m'avait demandé ce avec quoi j'étais pas OK, et il m'avait dit avec quoi lui, il serait pas OK. Et il y avait un truc par rapport à l'aspect sensuel, sexuel, peut-être jeu plus sexuel, plus génital. Et lui m'avait dit, moi, je j'ai pas envie de ça parce que c'est pas dans ma vie de couple avec ma compagne. Enfin voilà, on n'en est pas là et c'est pas pour ça que j'ai envie de t'attacher. Donc voilà. Sauf que j'ai bien senti qu'une fois qu'il m'avait attaché et qu'il prenait des photos, c'est quelqu'un qui prenait des photos. Il y a ce truc qui, c'est bizarre, je peux pas dire, mais dans sa manière de se déplacer autour de moi, j'ai senti que lui, il était en train de se confronter à ses limites. Et qu'il était en train de se dire, merde, en fait, là, j'ai envie de jouer. Sauf que moi, je lui ai dit que je ne jouerais pas.
On jouait sur un plan sexuel.
Ou complètement, voilà. Je parle de jouer, peut-être plus, on va dire de manière... peut-être pas forcément sexuelle, parce que je pense qu'il ne serait pas allé sur ses reins, mais peut-être sur un terrain un peu plus sensuel et charnel.
D'accord.
En tout cas, plus érotique.
Oui.
Voilà, sur un terrain plus érotique. Et qu'en fait, comme il m'avait annoncé que ça ne se produirait pas, j'ai senti vraiment que lui, il était en train, il se cognait à sa propre limite, de se dire, c'est dommage, parce que elle, elle m'a dit qu'elle était ok, moi je lui ai dit que je lui serais pas, donc je lui ai annoncé qu'on jouerait pas à ça, et voilà. Et donc je l'ai senti un peu perdue, et moi, avec moi je, à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais respirer, bouger les sourcils, bouger les orteils, bouger les doigts.
Rien
qu'avec ça, je pouvais jouer avec son inconfort à lui à ce moment-là. Et ça a été un truc de fou pour moi, de me dire, c'est génial en fait, c'est génial. Là, j'ai un pouvoir sur lui que j'avais pas imaginé pouvoir, et voilà, et c'est rigolo parce qu'on a débriefé après de tout ça, où je lui ai pas dit aussi frontalement que je suis en train de le faire là, mais vraiment je lui ai dit j'étais senti hésitant, et c'est lui qui m'a dit bah en fait moi je t'avais annoncé que j'avais pas envie d'aller sur un terrain érotique, voilà, et puis en fait je me suis rendu compte que ben ah, la dynamique, elle m'y emmenait, mais que je pouvais pas y aller, et qu'une fois que j'avais fait mes photos, en fait, j'avais envie de faire d'autres trucs, mais je t'avais dit qu'il n'y aurait pas. Mmh. Et voilà, et je lui ai dit, ben, moi, j'ai joué de ça, en fait. J'ai joué de ça, en fait, d'approfondir ou pas ma respiration, enfin, tu vois. Il y a eu cette espèce de jeu comme ça, et voilà, et ça, pour moi, ça a été un truc assez dingue. Et voilà, ça fait partie de ces trucs complètement fous qui font que je suis allée sur cette pratique. Et puis après, voilà, les trucs de suspension, il y a quand même des trucs de défis, enfin de suspension, ou même pas, hein, pas forcément, au sol aussi ça se passe, mais de défis physiques vis-à-vis de soi-même. Enfin, moi, j'ai pas toujours eu un rapport très complice avec mon corps. Hein. Moi, mon corps, avant, c'était vraiment une espèce de boulet que je traînais comme ça toute ma vie. La pause m'avait permis quand même de me réconcilier un peu avec ça, mais le shibari est vraiment achevé de me dire « Non, ton corps, c'est ton pote, ça peut être ton outil, vous pouvez faire des trucs ensemble, vous pouvez être très complices, vous pouvez vous faire confiance. » l'un l'autre, et le shibari m'a emmené là-dessus, vraiment, de me dire waouh, en fait mon corps peut m'amener dans des endroits que j'avais pas soupçonné et qui sont géniaux, et en fait il peut m'accompagner dans des challenges de fou, il y a même parfois une dimension un peu acrobatique à tout ça, waouh, en fait je suis capable de tout ça, et pour le coup moi ça a vraiment nourri ma confiance en moi aussi et ma confiance en mon corps.
Okay.
Voilà, globalement c'est un peu c'est un peu tout ça que
ouais, tu parlais tout à l'heure d'effets thérapeutiques, effectivement c'est quelque chose qui est régulièrement évoqué de manière générale quand on parle de kings, de pratiques BDSM, etc. On peut pas nier, c'est quelque chose qui revient régulièrement, qu'effectivement il y a comme effet secondaire ce genre de choses qui vont permettre de se sentir plus à l'aise avec notre corps de différentes manières possibles, d'avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, etc. etc. Après, effectivement, je pense, et c'est a priori comme ça que la plupart des personnes le voient, et tu vas nous dire du coup ce que tu en penses, mais que ça n'est pas de base ce que l'on vient chercher dans ces pratiques, mais que ça va être un effet secondaire, effectivement, qui peut se produire ou ne pas se produire, mais que les pratiques comme ça, les kinks, les pratiques BDSM, ne peuvent pas constituer, en fait, des outils ou une forme de thérapie en eux-mêmes.
En fait, je pense qu'effectivement, c'est un des dangers, c'est de se lancer dans la pratique du shibari ou effectivement de n'importe quelle pratique SM pour acquérir de la confiance en soi, de la confiance en son corps, etc. Parce qu'encore une fois, c'est des pratiques qui questionnent trop émotionnellement pour faire accéder aux réponses directement. Mmh. Et bon, il se trouve, comme on disait, j'ai commencé ma pratique, j'avais 31 ans. J'avais un petit background sentimental, sexuel, charnel, affectif. Enfin, j'étais au point. Et puis encore une fois, comme je te disais, moi, quand je suis arrivée sur FetLife, je me suis pas fait attacher le lendemain, en fait. C'est-à-dire que je suis pas rentrée dans un endroit en disant « je vais me faire attacher ». On m'a dit « bah tiens, regarde, là, il y a des gens qui sont dispo, ok, super, fais-le ». Non, c'est vrai, j'ai eu le temps aussi parce que la pratique n'était pas structurée de la même manière à l'époque. Il n'y avait pas les associations, il n'y avait pas à l'époque. J'ai l'impression d'être un dinosaure. voilà, un pote, s'il m'écoute, il sait très bien pourquoi je dis dinosaure, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, moi, quand j'ai débarqué là-dedans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces associations. Il n'y avait pas des groupes Facebook dans tous les sens. Il n'y avait pas des jams toutes les semaines partout en France. Enfin, il n'y avait pas ça. Donc à un moment, voilà, moi, j'ai eu ce parcours. C'est pour ça que c'est peut-être mon côté un peu vieille conne presque de ma manière de faire était la bonne. C'est pas que ma manière de faire était la bonne, c'est que je constate qu'il y avait beaucoup moins d'écueils, en tout cas au moment où les gens se jetaient pas dans un truc quand on leur annonçait pas que tout était safe, voilà. Et effectivement, On peut pas aller y chercher une thérapie. C'est-à-dire que c'est un effet collatéral positif. Mmh. Voilà.
Parce que je me posais la question en même temps, je me disais, pendant que je te disais tout ça, parce que je le pensais, je me dis, ok, mais pourquoi pas en fait ? Parce qu'on voit que ça a des effets absolument quand même, enfin, incroyables. Mais du coup, si on creuse encore un peu plus la chose, pourquoi est-ce que ça ne peut pas, est-ce que ça ne devrait pas dans le futur, je ne sais pas, une personne qui, au bout de 20-30 ans d'expérience, avec, je sais pas, plusieurs... Bon, ce n'est pas la quantité qui fait la chose, on est d'accord, c'est la qualité, mais on sait qu'avec l'expérience en général, bah, on acquiert plus de connaissances, plus de méthodes, etc. Du coup, toi, ton point de vue de personne qui pratique déjà depuis plus d'une dizaine d'années, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être une forme de thérapie ?
Alors, c'est pas que ça ne devrait pas être une forme de thérapie. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas aller y chercher une thérapie parce que la thérapie ne se produit pas forcément. Mmh. C'est-à-dire que comme c'est pas un truc qui est pratiqué par des thérapeutes, enfin, je veux dire, soyons clairs, hein, ça reste un truc de pervers. Hein, on est entre gentils pervers qui nous aimons beaucoup et qui ne nous jugeons pas.
Et être thérapeute, c'est un métier aussi.
Et voilà, et être thérapeute, c'est un métier. Et si on va chercher une thérapie quand on se lance dans la pratique, eh ben, on prend le risque de ne pas la trouver. Et si on ne la trouve pas, on peut... c'est ce que je disais
tout à l'heure. Toutes les conséquences émotionnelles, psychologiques...
Et voilà, c'est ça. Donc, mais il y a des gens qui, par contre, vont avoir... on va dire qu'ils vont avoir pour le coup une expérience de vie qui va leur faire dire à un moment, ok, là j'en suis au moment où peut-être il faut que je me lance là-dedans.
Un déclic pour se dire, j'ai peut-être besoin d'aller explorer autre chose avec un professionnel.
Et pourquoi pas, effectivement, tiens, j'ai du mal à être dans le ici et maintenant, là, dans le lâcher prise par rapport à tous mes problèmes. Tiens, le shibari peut m'aider à régler ça. Parce qu'effectivement, quand on se fait attacher, on pense pas ni à ses factures d'électricité passées, ni à ses factures d'électricité futures. Hein, on pense bien à cette putain de corde qui nous défonce le tibia et à quel moment ça va s'arrêter. Et comment je le gère et comment je respire. Et comment j'insulte avec les yeux mon partenaire pour qu'on puisse en rigoler quand même. Enfin, voilà, tous ces trucs. J'ai toujours peur quand c'est annoncé comme thérapie ou quand les gens me disent j'y vais pour ça. Notamment quand c'est des gens qui sont un peu expérimentés. C'est horrible, hein, je me sens des fois un peu agiste hein, quand je dis ces trucs-là, mais parce qu'il y a des personnes qui ont 18 balais et qui ont une maturité de fou, il n'y a pas de problème, mais il y a vraiment un truc quand même de maturité, de confiance en soi, parce qu'encore une fois, je pense que c'est difficile d'accorder sa confiance à quelqu'un quand on n'a pas confiance en soi complètement. Mmh. Et moi, je dis que j'ai gagné en confiance en soi, mais je ne suis pas partie de zéro en fait. Quand je suis arrivée dans cette pratique, j'étais pas quelqu'un de qui n'avait pas confiance en elle en fait. Évidemment j'étais pas quelqu'un de super sûr d'elle dans toutes les circonstances, mais j'avais un truc un peu solide qui me disait ok, je connais mes qualités, je connais mes défauts, je sais ce que je veux, ce que je veux pas, encore une fois je connais mes failles, je connais mes fragilités, je sais sur quel terrain je dois pas aller. Et donc je pouvais aller sur cette pratique en disant moi je sais exactement sur quel terrain je veux pas aller, je sais ce qui est dangereux pour moi, je sais ce que je veux pas vivre, je sais ce que je veux pas expérimenter, et je sais aussi vers quoi je veux aller. Mais du coup aller chercher une thérapie dans les cordes, c'est dangereux parce que ça peut ne pas se produire, tout simplement. Et il vaut mieux se dire non, j'y vais pour autre chose, j'y vais parce que j'en ai une folle envie, parce que je me sens prête, parce que y a tel partenaire, il y a telle personne qui m'a proposé de pratiquer avec elle, et du coup je me sens assez en confiance pour le faire. Et puis encore une fois, le côté thérapeutique, c'est la bonne surprise, quoi, c'est le bonus, quoi. Ça me paraîtrait trop dangereux de... Moi, vraiment, encore une fois, peut-être que je maximise hein, ce truc, mais ça me paraît trop dangereux d'aller y chercher une thérapie. On peut aller y chercher beaucoup de choses, mais aller y chercher, encore une fois, aller y chercher des réponses, aller y chercher du mieux-être, c'est dangereux. Par contre, si on a envie d'aller chercher des questionnements, si on a envie d'aller chercher de l'inconfort, enfin, tu vois, si on a envie de se confronter à de la douleur physique, si on a envie de se confronter à des questionnements.
À de l'amusement, à un moment qui apporte plein de sensations nouvelles et intéressantes.
À de la sensualité, parce qu'encore une fois, même si c'est pas sexuel, c'est une pratique sensuelle, c'est une pratique de proximité. Quand bien même tout le monde est habillé, il y a du contact, etc. Donc, voilà, on peut aller y chercher toutes ces choses-là. Aller chercher de la thérapie quand on a beaucoup de choses qui sont pas réglées ou qu'il y a beaucoup de questions qu'on s'est pas encore posées, tout simplement,
c'est risqué. D'accord.
Ça me paraît très risqué.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Vous pourrez retrouver Niuli dans la deuxième partie qui sera publiée très prochainement. Elle y parlera de son rapport au Shibari, de la relation avec son partenaire principal à travers cette pratique. Elle évoquera aussi les jams qu'elle a mis en place avec lui. Et pour terminer, Niuli donnera de précieux conseils pour les personnes qui souhaitent découvrir cette pratique. Si vous souhaitez découvrir le travail de Niuli, vous pouvez vous rendre sur son compte Instagram, @niuli. N-I-Y-O-U-L-I, tiré du 8, lacustre, L-A-C-U-S-T-R-E. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail, ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.